C'est quoi ce petit sourire?
Je viens de raccrocher avec mon conseiller Carac.
Pour ton plan d'épargne retraite?
J'ai fait le point sur mes placements. À la Carac, ils ont un fou.
Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Il fait beaucoup de vapeur, ce train qui nous conduit d'Orléans à Paris. Nous sommes au mois d'août 1890 et sur une des banquettes de deuxième classe, parce qu'il est soldat. Vous avez un jeune homme, il a 19 ans, belle allure dans son uniforme de l'armée française. Plus tard, il avouera s'être montré assez fier de tous ces regards qui se dirigeaient vers lui, des regards de l'agent féminine. Pourtant, si l'on y regarde de près, la capote est un peu grande, hein, il faut bien le dire. Le shako descend trop bas sur le front. On voit tout de suite que ce jeune homme n'est pas un militaire de carrière, non. C'est un soldat de deuxième classe qui s'appelle Marcel Proust. Il effectue son service militaire d'un an au sein du 76e régiment d'infanterie. Il l'a réalisé, devrais-je dire, puisque en août 1890, ce service militaire a pris fin et il profite donc de sa dernière permission. Il vient de monter dans le train qu'il conduit à Paris, d'où il va prendre un autre convoi en direction de Cabourg chez des amis. Et pour tuer le temps, Marcel a emporté des livres, bien sûr, mais il a aussi mis de côté un petit questionnaire qui est très à la mode. C'est une de ses amies qui le lui a confié, un petit jeu anglais sur papier qui se nomme Confession et qui en vérité est une série de questions personnelles. Il faut se plier à tout un questionnaire et l'intérêt, c'est de conserver ses confessions, et de refaire le questionnaire quelques années plus tard et de voir comment ont évolué les goûts, comment s'est formée la personnalité au fil du temps. C'est la troisième fois que Proust se plie à ce petit jeu. Premier renseignement, le principal trait de mon caractère, et voici la réponse de Marcel, le besoin d'être aimé et, pour préciser, le besoin d'être caressé et gâté bien plus tôt que celui d'être admiré. Ensuite est indiquée la qualité que je désire chez un homme. Il répond « des charmes féminins ». Et à la ligne suivante, la qualité que je désire chez une femme, réponse « des vertus d'homme et la franchise dans la camaraderie ». Tout est dit quasiment, vous vous rendez compte, en trois questions, on a l'impression que la personnalité même du futur grand auteur est déjà résumée. Quand on lui demande quel est son peintre préféré, il répond « Léonard de Vinci et Rembrandt ». Comme s'il fallait réconcilier le dessin du midi et les brumes du nord. Ses auteurs préférés, Anatole France et Pierre Loti, ça c'est moins inattendu en 1890, ce sont les deux grands auteurs de l'époque, et ses poètes, Baudelaire et Alfred de Vigny. Lorsqu'on lui demande son occupation préférée, Marcel répond « aimer ». Mais c'est pas, après tout, le but de la vie, aimer. Et quand on lui demande dans quel pays il souhaiterait vivre, « celui où certaines choses que je voudrais se réaliseraient comme par enchantement et où les tendresses seraient toujours partagées. » Oh, comme il y a des blessures et des meurtrissures derrière cette réponse-là. Une grande tendresse, une grande sensibilité aussi chez ce soldat de 19 ans. Vous allez voir que cette tendresse, cette sensibilité, cette capacité à formuler la tendresse et la sensibilité ne viennent pas de nulle part.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
J'ai besoin de vous rappeler que Marcel Proust est né le 10 juillet 1871. Ça fait partie des grandes dates de notre histoire culturelle. Il est né dans une bonne famille parisienne, d'un père catholique et d'une mère juive. Son père, le professeur Adrien Proust, est un médecin originaire de la ville de Dillier, non loin de Chartres. Il fait partie des grands mandarins de son époque. Deux ans après la naissance de Marcel, il y a un petit frère qui est arrivé, Robert. Robert, dont Marcel partagera évidemment toute l'enfance. Alors, si vous voulez vous plonger dans la biographie de Marcel Proust, le mieux c'est d'avoir recours à Jean-Yves Tadié, évidemment. Et voici ce qu'il écrit à propos de l'enfance de Marcel, celui qui n'est pas encore le petit Marcel. Le petit Marcel, c'est le nom qu'on donne au narrateur de la recherche. On a voulu, par supposition et sans preuve, dans la naissance de Robert, voir un traumatisme infligé à son frère, dont la jalousie aurait été ainsi excitée, et d'autant plus dangereusement qu'elle était inconsciente. Or, les deux frères ont été élevés de la même façon, habillés de la même manière, comme le montrent les photos familiales successives conformes à la mode du temps, en robe, en jupe écossaise sur une première illustration, en leggings et lavalière, en redingote de chaque côté de leur mère sur une seconde. La ressemblance physique frappe d'autant plus qu'ils sont plus jeunes, mêmes yeux admirables, même front, même nez. Le visage de Robert est à peine plus lourd, plus large. À partir de l'adolescence, les divergences s'accentuent, l'un plus vigoureux, sportif, massif, l'autre frêle et comme évanescent. Marcel, c'est le frêle et l'évanescent, évidemment, qui toute sa vie restera proche de ce frère cadet, bien que celui-ci n'apparaisse jamais dans la recherche. Le narrateur, le petit Marcel, n'a pas de frère dans la recherche. Entre 6 et 10 ans, les deux frères se rendent à Illier très régulièrement. C'est là que vivent leur oncle et leur tante, Jules et Elisabeth Amiot. Dans la recherche, Proust évoque alors infiniment ce petit village qui devient Combray. Et d'ailleurs, vous savez que la commune s'est rebaptisée ensuite Illier-Combray. La Madeleine, oui, je sais que certains d'entre vous l'attendent, alors la voici. Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin à Combray, quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite madeleine ne m'avait rien rappelé sans que je n'y eusse goûté. Peut-être parce que, en ayant souvent aperçu depuis, sans en manger sur les tablettes de pâtissier, leur image avait quitté ces jours de Combray pour se lier à d'autres plus récents. Peut-être parce que ces souvenirs abandonnés si longtemps hors de la mémoire, rien n'en survivait. Tout s'était désagrégé, les formes, et celle aussi du petit coquillage de pâtisserie, si grassement sensuel sous son plissage sévère et dévot, s'était aboli ou ensommeillé, avaient perdu la force d'expansion qui leur eût permis de rejoindre la conscience. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle, mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leurs gouttelettes presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. La sublime Heure exquise de Reynaldo Hahn, interprétée ici par Dame Felicity Lott, accompagnée par Graham Johnson.
Vous écoutez Radio Classique.
Je vous ai dit qu'il était un peu frêle, Marcel Proust. Oui, il aura toute sa vie une santé fragile, fortement aggravée par une psychologie que vous aurez compris très très flottante. Le printemps, pour lui, c'est la saison pénible, c'est paradoxal. Et quand on se promène dans cette jolie région de Beauce, quand on est à Illier et qu'on voit tout fleurir partout, et on se replonge dans l'atmosphère de la recherche et on se dit que c'est la saison parfaite, merveilleuse, profuse, eh bien, pour lui, les pollens sont très pénibles. N'oubliez pas qu'il est constamment agité de crises d'asthme, et puis cette lumière trop grande, et puis il est sorti à 9 ans quand il rentre d'une promenade au bois de Boulogne avec ses parents, et il se met carrément à étouffer. Hein, et son père pense que son enfant va mourir, et le père est un grand médecin, donc c'est sérieux. Il y a un ultime sursaut qui va le sauver, et maintenant il y a cette menace constamment sur cet enfant. La mort peut le saisir dès que revient le printemps, comme ça, dans une promenade n'importe où. C'est la crise d'asthme qui pourrait être trop forte. Alors il va sortir de moins en moins de chez lui, à la belle saison, et puis peu à peu il sortira de moins en moins à toute saison, me direz-vous. Alors que son frère, lui, Robert, est toujours à l'extérieur, toujours à courir et à vivre la vie de son âge. Voici ce que va écrire Marcel à propos du rituel de la littérature. Et pour savoir ce qu'il en pense, il faut aller chercher ça dans la préface qu'il a écrite au grand ouvrage de son auteur préféré, dont il a fait beaucoup de traductions, qui est Ruskin, bien sûr. L'ouvrage s'appelle « Sésame et l'hélice ». Et cette préface a été tirée à part sous le titre « Sur la lecture ». C'est un renseignement, une source extraordinaire pour connaître l'enfance de Proust et son rapport à la littérature en général et plus exactement aux livres. Qui ne se souvient comme moi de ces lectures faites au temps des vacances qu'on allait cacher successivement dans toutes celles des heures du jour qui étaient assez paisibles et assez inviolables pour pouvoir leur donner asile ? Le matin, en rentrant du parc, quand tout le monde était parti faire une promenade, je me glissais dans la salle à manger où, jusqu'à l'heure encore lointaine du déjeuner, personne n'entrerait que la vieille Félicie relativement silencieuse et où je n'aurais pour compagnon très respectueux de la lecture que les assiettes peintes accrochées au mur, le calendrier dont la feuille de la veille avait été fraîchement arrachée, la pendule et le feu qui parlent sans demander qu'on leur réponde et dont les doux propos vides de sens ne viennent pas comme les paroles des hommes en substituer un différent à celui des mots que vous lisez. Malheureusement, la cuisinière venait longtemps d'avance mettre le couvert, si encore elle l'avait mis sans parler, mais elle croyait devoir dire « Vous n'êtes pas bien comme cela, si je vous approchais une table !» Et rien que pour répondre « Non, merci bien, il fallait arrêter net et ramener de loin sa voix qui, en dedans des lèvres, répétait sans bruit en courant tous les mots que les yeux avaient lus. Il fallait l'arrêter, la faire sortir et, pour dire convenablement « Non, merci bien », lui donner une apparence de vie ordinaire. Une intonation de réponse qu'elle avait perdue. L'heure passait, souvent, longtemps avant le déjeuner, commençaient à arriver dans la salle à manger ceux qui étaient fatigués, avaient abrégé la promenade, ils disaient bien « je ne veux pas te déranger », mais commençaient aussitôt à s'approcher du feu, à consulter l'heure, à déclarer que le déjeuner ne serait pas mal accueilli. On entourait d'une particulière déférence celui ou celle qui était resté à écrire, et on lui disait « Vous avez fait votre petite correspondance avec un sourire où il y avait du respect, du mystère, de la paillardise et des ménagements, comme si cette petite correspondance avait été à la fois un secret d'État, une prérogative, une bonne fortune ou une indisposition. » Quelques-uns, sans plus attendre, s'asseyaient d'avance à table à leur place. Cela, c'était la désolation, car ce serait d'un mauvais exemple pour les autres arrivants, aller faire croire qu'il était déjà midi et prononcer trop tôt à mes parents la parole fatale. « Allons, ferme ton livre, on va déjeuner !» De la jeunesse de Proust, nous connaissons évidemment ce qu'il a bien voulu laisser dans ses écrits. Alors, il y a toute cette transfiguration infinie du premier long chapitre du côté de chez Swann, Combray, et puis la Madeleine et la lecture et le baiser du soir de cette mère qui n'en finit pas de monter, dire bonsoir. Et puis, ça, ce sont les symboles de l'enfance proustienne. La place de la mère est évidemment très, très importante. Voici ce qu'il écrit sur sa propre mère, toujours dans cette préface de Sésame et l'Hélice. Et c'est d'autant plus fort qu'il faut savoir que c'est elle qui est sa relectrice et sa correctrice dans cette préface. Donc elle y a d'une certaine manière assez directement participé. pour un roman, pour des vers, chose où elle se connaissait très bien, elle s'en remettait toujours avec une humilité de femme à l'avis de plus compétents. Elle pensait que c'était là le domaine flottant du caprice où le goût d'un seul ne peut pas fixer la vérité. Mais sur les choses dont les régies et les principes lui avaient été enseignés par sa mère, sur la manière de faire certains plats, de jouer les sonates de Beethoven et de recevoir avec amabilité, elle était certaine d'avoir une idée juste de la perfection et de discerner si les autres s'en rapprochaient plus ou moins. Pour les trois choses, d'ailleurs, la perfection était presque la même. C'était une sorte de simplicité dans les moyens, de sobriété et de charme. Elle repoussait avec horreur qu'on mît des épices dans les plats qui n'en exigent pas absolument, qu'on joie avec affectation et abus de pédale, qu'en recevant, on sortit d'un naturel parfait et parla de soi avec exagération. Dès la première bouchée, aux premières notes, sur un simple billet, elle avait la prétention de savoir si elle avait affaire à une bonne cuisinière, à un vrai musicien, à une femme bien élevée. Elle peut avoir beaucoup plus de doigts que moi, mais elle manque de goût en jouant avec tant d'emphase cette andante si simple. Ce peut être une femme très brillante et remplie de qualités, mais c'est un manque de tact de parler de soi en cette circonstance. Ce peut être une cuisinière très savante, mais elle ne sait pas faire le beefsteak aux pommes. Le beefsteak aux pommes, morceau de concours idéal, difficile par sa simplicité même de sonate pathétique de la cuisine, équivalent gastronomique de ce qu'est dans la vie sociale la visite de la dame qui vient vous demander des renseignements sur un domestique et qui, dans un acte si simple, peut à tel point faire preuve ou manquer de tact et d'éducation. Renaud Capuçon au violon et Bertrand Chamaillou au piano viennent de vous faire entendre ce que bien des exégètes considèrent comme le modèle de la petite phrase de Vinteuil, extraite de cette sonate pour violon et piano numéro 1 de Camille Saint-Saëns.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Proust a 11 ans quand il entre au lycée Condorcet, on est donc en 82, en 1884, pardon, il est un des meilleurs élèves du lycée. en tout cas en littérature. Hein, il connaît énormément de vers de Hugo, de Musset, etc. Il est assez souvent absent du lycée, toujours à cause de cette santé. Et puis, disons les choses, en maths, il n'est pas très bon. Hein. Son professeur, M. Brichet, le note faible. « Ne travaille pas », dit-il. Le jeune lycéen est souvent pris en train d'écrire un billet littéraire à son ami Daniel Alévy. « Pendant que je corrigeais un problème », déclare M. Brichet, qui n'en peut plus. À 16 ans, Marcel va commencer ce qu'on appelle à l'époque sa classe de rhétorique et se passionne de plus en plus pour cette littérature. Il est entouré d'amis, hein, il a beaucoup d'amitiés qui sont des amitiés très, très fortes, dont on doit pouvoir dire qu'elles sont amoureuses avec toutes sortes de ses camarades. Et ils vont créer ensemble des revues littéraires, notamment une qui paraît le lundi, qui s'appelle d'ailleurs « Lundi ». Proust signe là-dedans des critiques littéraires en s'inspirant un peu de ce que faisait Sainte-Beuve dans ses causeries du lundi, des critiques sur Théophile Gautier ou sur Corneille, ou même sur, sur tout ce qui peut lui passer sous la main. C'est assez drôle lorsqu'on sait l'attitude extrêmement critique. La réserve, c'est le moins qu'on puisse dire de Proust à l'égard de Sainte-Beuve. Et puis, des articles avec Robert Dreyfus, Daniel Alévy dans la Revue Verte, la Revue Lila. Et par l'entremise de Jacques Bizet, Proust est introduit dans le salon de Madame Strauss. J'ai déjà parlé de ça ici, n'est-ce pas ? C'est le début pour lui de la fréquentation des grands salons, de ce Paris extrêmement mondain. Très tôt, nous dit Jean-Yves Tadier, Proust invite Madame Strauss et son fils au théâtre, envoie des fleurs à celle-ci, lui adresse des compliments et toute sa vie, il a faim d'être amoureux d'elle, à la fois parce qu'elle attendait ce comportement de tous ses admirateurs, mais parce qu'il aimait en elle tout ce qu'il pouvait aimer chez une femme, l'esprit, le charme, l'élégance, l'affection, l'allure maternelle, sans avoir à la désirer, puisqu'on est tout à fait excusable de ne pas désirer la mère d'un de ses amis. Enfin, l'attirance, d'abord inconsciente du futur artiste pour son modèle, l'autobiographie raconte ce qu'il a vécu, le romancier vit pour raconter.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Et le voici donc, en 89, envoyé faire son service militaire, c'est Paul Desjardins, son ami Desjardins, qui écrit, qui brosse de lui ce portrait la même année. Ce jeune prince persan aux grands yeux de gazelle, aux paupières alanguies, respectueux, onduleux, caressant, inquiet, quêteur de délices, pour qui rien n'était fade, irrité des entraves que la nature met aux tentatives de l'homme, surtout de l'homme qu'il était si frêle, s'efforçant à convertir en quelque chose d'actif le passif qui semblait son lot, tendu vers le plus, le trop, jusque dans sa bonté charmante, cet enfant romantique, je le dessinerai volontiers de mémoire. Marcel Proust va faire donc son service militaire et puis à la fin de l'été 90, vous l'avez vu, il en est revenu avec une certitude et avec une décision immense. Il veut vivre de sa plume. Eh bien aujourd'hui, pour beaucoup, c'est cette plume qui donne la force de vivre.
Vous écoutez Radio Classique.
Merci beaucoup à Jean-Baptiste Gallen et bonjour à Christian Morin.
Bonjour mon cher Franck, vous vous préparez à passer un bon week-end, mais ben avant oui. Il y a toujours ce J'espère. Petit crochet de 14h. Alors on va découvrir Colette, écrivain.
On reste dans la même époque.
Bien sûr, mais Colette, oui, tout à fait, mais Colette, reporter.
Oui, c'est un aspect qu'on connaît moins du personnage.
Il y a eu Musicole, bien sûr. Il y a eu les produits de beauté, c'est un personnage quand même étonnant.
N'oubliez pas qu'elle était très proche de M. de Jouvenel et donc du journal Le Matin.
14h avec Franck Ferrand, bon week-end à vous et puis on se retrouve bien sûr lundi.